Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler de sécurité hardware avec Yann Alain. Bonjour Yann.
Bonjour.
Et pour discuter avec lui, les contributeurs Non Limite Sécu sont Hervé Schauer.
Bonjour.
Nicolas Ruff.
Bonjour.
Renaud Lifschitz.
Bonjour.
Et moi-même, Johan Uloa. Alors Yann, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ?
Alors Yann Alain, ça fait un peu plus de 25 ans que je travaille dans le monde qui est proche de la cybersécurité. J'ai commencé ma carrière dans l'industrie électronique à concevoir des systèmes de contrôle d'accès dits sécurisés. Je suis passé dans le monde de l'informatique pour me rapprocher de la cybersécurité et j'ai notamment été le responsable sécurité applicative du groupe Accor. J'ai ensuite créé ma structure qui vient d'être rachetée par un groupe qui s'appelle le groupe Cerma et je travaille dans la division cybersécurité du groupe Cerma qu'on appelle Cerma Safety and Security.
Alors Yann, pourquoi c'est important de faire de la sécurité hardware ?
Un peu comme pour l'IT, c'est-à-dire que quand on fait de la sécurité dans le monde IT, dès qu'une donnée sensible, selon les critères bien connus de disponibilité, d'intégrité ou de confidentialité apparaissent, tous les consultants en sécurité se disent « il faut que je fasse de la sécurité voilà, pour protéger ces données ». En fait, dans le hardware, on s'aperçoit que tous les modules hardware traitent, stockent ou font transiter les mêmes données, surtout avec le phénomène dit des objets connectés du moment, qu'on pouvait appeler avant les systèmes embarqués communicants.
Enfin, la différence quand même, c'est que dans le logiciel, souvent tu as plusieurs logiciels qui s'exécutent sur la même machine, alors que dans le hardware, c'est assez rare que tu prennes des modules de différentes personnes que tu connais pas et que tu les branches ensemble.
Alors c'est pas vraiment le cas dans l'industrie, puisque les industriels construisent aussi par adjonction de librairies ou même de modules hardware des choses pour faire traiter ou transiter ces fameuses données dites sensibles. Donc on se retrouve à peu près dans le même monde, en fait.
Tout dépend à quelle échelle tu vois les choses. C'est sûr que si tu regardes un microcontrôleur, bon, en général, le code, il n'a qu'une seule source. Mais quand tu vois, si l'objet, c'est une voiture, le constructeur de la voiture, c'est un intégrateur de tout un tas de choses dont il n'a même pas les codes sources et qui fait fonctionner sur le même réseau. Donc on a très vite plein de logiciels qui cohabitent.
Et tu as même dans des objets beaucoup moins compliqués qu'une voiture, tu as des industriels qui sont aussi des intégrateurs sur une même carte électronique. Ils achètent ici le module de transmission, ici le module qui gère la RAM ou l'IP X ou Y dans leur FPGA.
Oui, et puis d'ailleurs le code que tu crois qu'il leur appartient, genre le code de l'automate pour un fabricant d'automate, ou en fait c'est pas du tout le fabricant d'automate qui l'a codé, il a sous-traité à une société mieux disante.
Faut pas oublier l'adage aussi que s'il n'y a pas de sécurité hardware, il n'y a pas de sécurité logicielle, donc c'est quand même assez fondamental d'avoir une base solide pour avoir un minimum de confiance dans le software qui tourne au-dessus. Parce qu'à partir du moment où on a un accès physique à un système, généralement on dit c'est perdu. C'est d'autant plus vrai là dans le monde de l'IoT.
Moi ce que je trouve génial dans la sécurité matérielle, c'est que on regarde jamais. Alors qu'on n'arrête pas de... Prenez les antivirus, ils n'arrêtent pas de regarder s'il n'y a pas des logiciels malfaisants sur nos ordinateurs, mais ils ne regardent pas à l'intérieur des puces. Alors, des puces avec du logiciel dedans, voire qui se met à jour, on ne sait même plus combien il y en a, tellement il y en a.
Il y a quand même quelques exemples. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui s'intéressent à la sécurité des codes dans les microcontrôleurs. Enfin, même sur un PC, je pense qu'il y a tout ce qui est UEFI, tout ce qui est Intel AMT ou VPro, etc. Aujourd'hui, les attaquants vont de plus en plus bas dans les couches et s'intéressent à tous ces micro-logiciels qui sont embarqués. Il y avait une présentation déjà il y a quelques années sur la sécurité des cartes réseau qui avait été faite par les gens d'ANSI. Ils avaient montré qu'en envoyant un paquet, tu pouvais prendre le contrôle de la carte réseau sans que l'ordinateur au-dessus soit au courant. Quoi.
Oui, il y a eu ça au STIC et il y avait aussi à la JSSI de l'OCIR la présentation sur le contrôleur de disque, le microcode du contrôleur de disque.
Qui s'est avéré après être un outil de la NSA utilisé dans la réalité.
Après, si je peux me permettre, dans le hardware, la notion de frontière dans le hardware est quand même assez floue en fonction des interlocuteurs. Nous, comment on appréhende la sécurité d'un système qui comprend du hardware, c'est qu'on distingue les couches purement électroniques, donc on va dire l'objet que tu portes sur ton cou, où tu veux, enfin ton objet connecté. On a le moyen de communication avec un serveur central, que ce moyen de communication soit aussi filaire comme de l'informatique classique ou en radiofréquence. Donc on est aussi dans le monde du hardware, mais dans le monde physique, là, la radiofréquence, et après tu as la troisième partie classique dans le cloud. Et donc la sécurisation ou les faiblesses de sécurité que tu peux trouver dans un hardware peuvent aussi impacter toute cette chaîne. Et globalement, certains parmi nous ont déjà trouvé quelques faiblesses dans des systèmes, et la source étant le hardware, mais l'impact a été sur le reste de la chaîne.
Alors, comment on fait pour trouver des failles dans le hardware ? Je crois que tu donnes des trainings à Black Hat sur le sujet.
Alors oui, effectivement, on donne un training. On explique aux gens comment attaquer du hardware pour mieux appréhender les méthodes de sécurisation, en fait. Il y a plusieurs... En fait, on peut faire une analogie avec les pentests IT, hein, assez classiquement. Un pentest IT, il faut commencer par une prise d'information sur la cible. Bah, dans le monde du hardware, c'est pareil, hein, sauf qu'il faut démonter, prendre un tournevis et regarder les composants qui sont à l'intérieur du système. Après, dans le monde de l'IT, on cherche les portes d'entrée, donc Nmap et tous les outils qu'on connaît tous, par exemple. Et dans le monde du hardware, c'est pareil. Il faut analyser les broches de connexion qu'on voit et qui sont accessibles et voir quelles sont leurs fonctions. Et après, on a des outils qui sont un peu différents pour s'intégrer avec le hardware ou aller chercher ce qu'il y a à l'intérieur de la puce. Donc là, on parle d'analyseurs de bus, de débuggeurs de type JTAG pour se connecter au firmware ou au code qui tournerait sur un système, ou on peut descendre sur des aspects plus électroniques où il nous arrive de temps en temps d'analyser le courant que consomme un système pour en extraire des informations sur le code assembleur qui tourne.
C'est à la portée de n'importe qui, ça, parce que pour les attaques à base de décapsulation, il faut quand même manipuler de l'acide nitrique, c'est pas toujours évident, non ?
Nous, on n'a pas la prétention de connaître toutes les activités qu'on peut faire autour du hardware hacking, mais si on prend nos audits à nous, il est extrêmement rare d'avoir à sortir l'acide nitrique. Hein. Il suffit d'avoir une bonne loupe.
Un consultant en pentest peut devenir auditeur hardware ?
En ayant suivi la formation, il démarre. Mais non, tu sors quand même le silo de temps en temps ?
Oui, on sort le silo, mais c'est plus pour des besoins de vérification, souvent, hein, qu'on n'a pas cramé la cible. La plupart du temps, on n'est pas obligé de s'en servir.
Non, en fait, il y a des attaques, comme il a dit Yann, il y a des attaques par canaux cachés qui permettent d'extraire énormément d'informations quand bien même il n'y a pas beaucoup de portes ouvertes et sans sortir l'acide nitrique ou le microscope à balayage électronique. Hein. Donc en analysant la consommation, en analysant les radiations, ou en insérant éventuellement des erreurs sur les bus d'horloge ou de données.
Oui, enfin, l'acide nitrique, c'était un bon exemple, mais globalement, c'est pareil, les attaques en DPA ou autre, ça demande quand même de faire du traitement du signal assez avancé, quoi. C'est comme les gens qui essayent d'utiliser nos radios, qui découvrent que il faut savoir ce que c'est qu'un filtre de Kalman et un diagramme de bot.
Il y a des outils qui existent maintenant, hein. Il y a des outils à base de FPGA qui existent, qui se connectent au PC, qui sont assez graphiques et qui mâchent pas mal le travail, on va dire.
Par contre, c'est pas forcément la première méthodologie d'attaque à sortir, finalement. Parce que souvent, c'est bien plus compliqué de faire ces attaques-là que juste de brancher un débuggeur JTAG qui n'a pas bien été protégé. Et j'ai plus mes statistiques en tête, mais je crois que dans un cas sur deux, il suffit de se connecter, demander à ce que tu sortes le firmware et tu l'as. Donc c'est plutôt une négligence des concepteurs, ou plus précisément le fait que les concepteurs de systèmes embarqués ne connaissent pas les menaces réelles. Donc en fait, pour moi, la problématique est avant tout une problématique à l'heure actuelle où les concepteurs en électronique doivent, comme les développeurs dans les années 2000, prendre en compte la menace qui pourrait impacter leur système.
Oui, je rejoins Yann là-dessus. Déjà, il y a effectivement la nécessité de protéger les données utilisateurs en protégeant le hardware, parce que c'est là où vont être stockées, hein, les données, très souvent sur des mémoires flash ou de la RAM. Le corollaire, c'est évidemment aussi le respecter la réglementation, parce qu'il y a certains types de données qui sont réglementées et qui doivent pas être accessibles par des tiers. Et ce dont n'ont pas forcément confiance en fait les constructeurs, c'est qu'au-delà des données utilisateurs, c'est leur propre propriété intellectuelle hein, qu'ils peuvent protéger. En scellant l'accès au firmware, au micro-logiciel, simplement pour pas avoir se développer des clones en Asie dans 3 ou 6 mois. Et ça, c'est un très bon argument, je pense, pour faire comprendre aux constructeurs qu'il faut protéger leurs solutions.
C'est d'ailleurs souvent par ce biais-là que les clients nous contactent en premier.
Tu veux dire pour protéger ou pour récupérer la propriété logicielle à concurrent ?
Pour protéger.
Et donc, qu'est-ce que vous utilisez comme méthode ? Parce que tu dis que dans 50% des cas, le JTAG fonctionne, mais donc dans 50% des cas, ça ne fonctionne pas. C'est quoi les alternatives ?
Bah après, tu as, quand tu parles uniquement, si on fait un focus sur l'objet électronique, donc on va parler de carte électronique, ce qui se passe, c'est que soit le design est fait avec un seul microcontrôleur, il y a tout à l'intérieur, ça peut arriver. Donc là, soit... Si tu n'es pas capable de rentrer à l'intérieur avec un JTAG ou d'extraire le firmware simplement, bah, il faut utiliser les canaux cachés, soit trouver la fonction d'upload, qui de toute façon existe à un moment donné aussi, peut-être, d'upload de firmware. Donc il peut se trouver en fait sur le net en accès libre. Sur d'autres designs qu'on rencontre, c'est que sur une même carte, en fait, tu as un microcontrôleur et des mémoires qui sont séparées dans des composants différents. Et dans ce cadre-là, après, tu as un bus de communication, donc tu peux regarder ce qui se passe sur le bus. Tu peux aussi envoyer des commandes au travers de ce bus aux mémoires, par exemple, et dumper non pas le contenu du firmware qui se trouve dans le microcontrôleur, mais le contenu d'une mémoire qui contient peut-être aussi le microcontrôleur, voire des informations plus sensibles comme les clés de chiffrement. Donc en fait, tous les composants de stockage électronique peuvent être des cibles pour un pentest hardware, par exemple.
C'est destructif comme opération ?
La plupart du temps, non. Sur les mémoires, non. C'est pas destructif. Après, ça dépend de l'agilité du pentester à, de temps en temps, avoir la nécessité de dessouder 250 pattes.
Parce que vu les tailles aujourd'hui, quand tu prends des composants montés en surface, ou bon, je te parle même pas du BGA, pour aller chercher les pins, non seulement on m'a dit qu'il fallait une petite dose de whisky, ça aidait à avoir les mains qui ne tremblent pas avant de les souder.
Ouais, je confirme. Et des très bons yeux, c'est-à-dire que ceux qui ont une mauvaise vue sont pas forcément aidés.
Je croyais que tu habitais en Bretagne, tu prends pas de whisky, tu prends du chouchen, toi.
Entre autres.
Non, ce qu'il explique, c'est que bon, bah, pour faire des attaques matérielles, il faut embaucher des jeunes.
C'est exactement ça.
C'est vrai que, enfin bon, il y a eu pas mal de conférences hein, sur la sécurité hardware ces derniers temps, puisque c'est vraiment un sujet de plus en plus à la mode. Je pense aux gens, par exemple, d'Airbus Group Innovations, qui ont attaqué tout un tas de disques durs, soit avec des pinpads, soit avec des softs qui permettent de débloquer des clés USB auto-chiffrantes, des trucs comme ça. Et apparemment, les méthodes d'attaque sont pas toujours celles qu'on imagine. Quoi. C'est-à-dire que l'étape 1, c'est d'aller chercher si la doc a pas leaké sur l'internet chinois avant de commencer même à démonter le boîtier. C'est juste prendre les références des composants et chercher les datasheets sur Baidu. Quoi.
Oui, et c'est notamment très utile quand tu fais de l'analyse de flux radiofréquence, parce qu'il y a certaines obligations de divulgation d'informations sur les fréquences utilisées qui sont indiquées sur les étiquettes. Et donc dans le monde radiofréquence, oui, ou dans l'analyse d'un protocole radiofréquence, ça peut être une bonne source d'informations. Il n'y a pas besoin de démonter ou de sortir le tournevis. Oui.
Et puis c'est comme ça que fonctionnent les mafias, c'est-à-dire que quand ils essayent de fabriquer des firmware falsifiés, ben, ils récupèrent la doc des composants en ligne.
Enfin, c'est au-delà de la mafia, hein. Je veux dire, les composants sont fabriqués dans des usines en Chine, donc c'est comme ça que tu te retrouves avec du matériel qui... Tu trouves des clones de certains produits au grand public, y compris des téléphones portables, qui sont en fait, qui sortent quasiment, qui sortent de la même chaîne de fabrication, sauf qu'il y a une partie de la production qui est endormie et qui est revendue sous une autre marque. Quoi.
Oui, mais là c'est pas l'objet, c'est pas de falsifier le contenu du composant, le contenu logiciel du composant.
Oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, tous les composants sont fabriqués en Asie du Sud-Est, et donc de toute façon, les Chinois ont déjà les datasheets, de facto, quoi, puisque c'est eux qui fabriquent les composants.
Alors, en fait, tu as raison parce que ça pose donc la problématique de la sécurisation de l'intégration industrielle d'une propriété intellectuelle. Parce que on en voit ça souvent dans un pays qu'on ne contrôle pas, une usine qu'on ne contrôle pas. Donc, y a soit tu es dans un cadre où, commercial où la société qui intègre ce firmware est contrôlée. C'est le cas, par exemple, des structures qui ont des contraintes de type critères communs, etc. Par contre, il y a beaucoup, beaucoup de structures qui vendent des objets connectés, qui suivent un processus de fabrication délocalisé, on ne sait où. Et il s'avère que le moyen qu'on trouve le plus souvent pour envoyer le firmware, c'est un mail.
Chiffré avec GPG.
Plus ou moins.
Oui, mais le fait que le firmware soit envoyé en clair, c'est pas un problème. De toute façon, le firmware, il est accessible une fois que tu as le composant. Ce qui est intéressant...
Ah, pas toujours. Voilà. Enfin, sur les microcontrôleurs, justement, tu as des bits de protection, enfin, tu as des fusibles qui te permettent de dire c'est du write-only.
Mais, mais celui qui met le fusible, c'est celui qui fait l'intégration. Donc le firmware est envoyé en mail, et doit être envoyé à un moment donné en clair quelque part. C'est généralement l'intégrateur matériel qui crame ses fusibles, comme tu dis, la plupart du temps. Donc c'est la chaîne de fabrication.
Ce que je veux dire, c'est que l'accès au firmware pour un attaquant n'est pas forcément gagné d'emblée, quoi. Même sur un composant grand public, tu peux avoir du mal à avoir accès au firmware.
Ce qui est surtout intéressant, c'est de pouvoir non seulement avoir accès au firmware, mais de pouvoir en faire un firmware modifié à ton avantage, que tu peux réinjecter dans des composants que tu arrives à mettre dans les appareils.
Mais alors ça, c'est un autre problème. C'est le problème des backdoors. Et effectivement, il y avait eu un papier très intéressant, d'ailleurs, sur la possibilité de backdoorer même carrément au niveau du hardware. Tu vois, en faisant, je crois que c'était dans un FPGA où ils avaient réussi à poser une backdoor sans avoir accès à la spécification, quoi, en ayant juste accès au masque de fabrication et à pouvoir en fait modifier les composants qui leur permettaient, par exemple, de récupérer le firmware alors que tu n'es pas censé pouvoir le faire, etc.
Ah, t'es pas détecté après.
Bah, il y a des gens qui ont justement créé, alors je sais plus qui c'est, mais j'ai vu ça au César, je crois, l'année dernière, pas cette année, mais l'année dernière. Qui ont mis au point des méthodes de détection de backdoor dans des composants programmables de type FPGA. Donc en fait, il y a quelques solutions, bon, alors je ne les maîtrise pas ces solutions, mais il y a quelques méthodologies qui permettraient, parce que je ne les ai pas testées, qui permettraient d'évaluer la potentielle backdoor intégrée à l'insu de son plein gré au FPGA.
Ok.
Mais personnellement, je n'ai jamais travaillé là-dessus.
J'irai voir parce que... C'est des méthodes logicielles ou matérielles qu'ils utilisent?
Je sais plus, ça date de l'année dernière.
C'est plus des méthodes d'attaque par canaux cachés, donc différence de radiation entre un composant témoin et puis un composant suspect, entre guillemets. Différence de radiation ou différence de consommation.
D'accord, il faut tourner le même code sur deux composants qui sont censés être les mêmes et à partir de là, ils déduisent si le comportement est le même.
Ouais, c'est un peu comme ça qu'on trouve, qu'on tourne dans une VM, bah là c'est la même idée.
Ouais, il y a une autre méthode d'attaque assez couramment répandue, c'est aussi de récupérer les logiciels du constructeur et de regarder comment ils fonctionnent, parce que souvent c'est beaucoup plus facile de faire du reverse logiciel que matériel, non? Je pense à la plupart, tu parlais des mises à jour et des commandes pour aller uploader des firmwares. En général, celles-là elles sont disponibles dans les... Enfin, elles ne sont pas documentées, mais elles sont disponibles dans les petits logiciels compagnons que tu installes sur ton PC, par exemple. Ça, c'est aussi une méthode qui est relativement abordable, non?
Non, en fait,
du reverse logiciel sur le client.
En fait, en termes de côté abordable, faut bien voir que l'attaque sur le hardware n'est pas forcément très coûteuse, non plus. Enfin, faut pas forcément penser qu'il faut un laboratoire extrêmement développé. Il y a, en fonction du niveau de conception plus ou moins sécurisé, il y a des outils à $30 sur le net qui peuvent servir à commencer à faire son travail d'auditeur dans le monde du hardware.
On a vu qu'il y avait beaucoup de conférences, beaucoup de gens qui en parlaient. Par contre, moi, j'ai pas le sentiment qu'il y a eu beaucoup de... En tout cas, moi, j'ai pas été énormément sollicité pour du business, c'est-à-dire pour des gens qui sont proactifs et qui souhaitent auditer leurs produits ou faire auditer un produit qu'ils vont utiliser. Alors, il y a eu un peu de... Il y a de l'investigation numérique, c'est-à-dire que le jour où il y a un ennui, on va jusqu'à comprendre où était le problème dans le hardware. Mais moi, j'ai pas eu le sentiment qu'il y avait un gros business... malgré toutes les conférences sur le sujet. Et toi, Johan, tu arrives à trouver du business dans le domaine?
Oui, ça va.
Ah oui, c'est... Ah, bravo.
Non, mais en fait, si tu veux, tu as plusieurs types de sources de business, à mon sens. Tu as un, effectivement, l'incident de sécurité qui a touché et qui a fait la une des journaux, d'accord?
Ouais, bon, ça, ok, j'ai...
Ça arrive. Après, on en est un peu comme dans les années 2000... avec les serveurs web. enfin avec les applications web. C'est-à-dire que tout le monde veut son IoT en ce moment, donc tout le monde conçoit, développe, etc. Mais tout le monde est un petit peu chatouillé par les aspects de, et quand je dis tout le monde, c'est souvent la direction générale, qui peut être inquiète de la sécurité de l'objet connecté parce qu'il regarde les journaux comme tout le monde. Et c'est souvent le lien avec la direction générale qui amène une orientation de l'équipe de R&D à prendre en compte la problématique sécurité.
Alors ça, je l'avais vu au niveau fuite de données, données à caractère personnel, cloud dans des pays lointains, etc. Mais effectivement, j'avais pas senti au niveau matériel.
Concrètement, nous, depuis quelques années, on travaille pour un grand d'électronique en Europe. Et il nous demande assez régulièrement, parce que son directeur général en avait marre de faire la une des journaux, de prendre en compte l'amélioration, la prise en compte des aspects de conception sécurisée dans tous leurs produits.
Ouais, ça c'est super. Enfin, ceci dit, s'il n'y en a qu'un, ça montre qu'il y a encore des progrès à faire.
Pour ma part, moi j'ai plusieurs industriels en fait qui en ont marre d'être copiés et qui veulent faire de la qualité, qui ne sont pas les premiers à être arrivés sur le marché, contrairement à l'adage du time to market, mais qui en ont marre d'être copiés et qui veulent se différencier par le niveau de qualité et le niveau de sécurité des solutions qu'ils proposent. Parce qu'ils sont arrivés un peu après et ils veulent faire des choses de qualité.
La protection du logiciel, c'est complètement différent. Hein.
Oui, mais encore une fois, on peut faire de la sécurité en protégeant la propriété intellectuelle. Et de fait, on va protéger les données à caractère personnel, on va protéger d'autres choses.
Oui, on peut faire des logiciels tout pourris et bourrés de trous, tout en ayant une excellente protection contre la copie du firmware.
Ben, si les composants hardware sont bien protégés, on ne pourra pas faire sortir des données, on ne pourra pas faire sortir des secrets, comme on ne pourra pas faire sortir un firmware.
C'est bien vendu, hein, comme ça.
Alors, qu'est-ce que vous leur recommandez aux clients qui veulent se protéger? Parce que si c'est tellement abordable de faire des attaques hardware... et qu'on n'a pas finalement la maîtrise sur les composants parce qu'on fait l'intégration de choses achetées à droite à gauche, c'est quoi la solution?
À l'heure actuelle, comme il y a un problème de connaissance de la menace, alors déjà il faut savoir que les gens qui s'occupent de la sécurité dans le monde du hardware, généralement c'est pas des gens qui sont en lien avec les RSSI des entreprises. Donc il y a un vrai problème à l'heure actuelle, de ce que je peux constater moi, c'est que les RSSI sont souvent ne font pas partie prenante de la R&D du produit de chez X ou Y. Et donc du coup, on se retrouve avec une nouvelle catégorie de personnes à qui il faut réexpliquer les fondamentaux de la sécurité. Et donc la première chose à faire, c'est de réexpliquer les fondamentaux aux équipes de développement, qui sont des populations très différentes des équipes IT. Voilà, à l'heure actuelle, quelqu'un qui met en ligne un site de e-commerce et qui fait pas de sécurité de son site de e-commerce, au mieux, il est traité d'incompétent. Au pire, il est rattrapé par PCI DSS. Dans le monde de la conception électronique, souvent, la préoccupation et la prise en compte de la menace de type cyber ou insécurité, on va dire, elle est même pas prise en compte. Donc en fait, on a un problème. On est face à une nouvelle catégorie de population qu'il va falloir former, qu'il va falloir sensibiliser, et ensuite qu'il faut accompagner pour mettre en place, comme dans le monde du développement, des software développement, secure développement lifecycle en fait, mais avec des compétences en électronique.
Là, ce qui est important de bien dire aux auditeurs, c'est que le seul qui va imposer la sécurité, c'est la partie prenante, c'est le commanditaire. C'est-à-dire que si à la fin, il n'y a pas un grand compte qui l'exige et qui va faire redescendre la demande jusqu'au concepteur et à celui qui programme les composants, effectivement, il n'y a aucune loi d'aucune sorte qui fera qu'il y aura de la sécurité.
Enfin, il y a deux cas, il y a le cas du B2B et le cas du B2C. Là, tu parles de donneur d'ordre... Un gros industriel qui achèterait des composants sur étagère.
Oui, par exemple, j'achète des automates et j'impose de la sécurité dans mes automates. Résultat, les automates sont conçus avec de la sécurité et imposent de la sécurité à ceux qui programment les automates et j'en passe, c'est des meilleurs. Enfin, je pense à ce type de chaîne, évidemment. Oui, l'utilisateur, bon... Enfin, l'utilisateur, il n'a pas besoin de sécurité pour son tracker GPS.
Oui, mais là, on parlait, il y a un autre type de sécurité dans le B2B, c'est justement d'éviter la copie. Et là, en fait, tu ne te bats pas contre ton donneur d'ordre, tu te bats contre tes concurrents, en fait. Donc,
C'est ce qui expliquait Renaud.
Oui. Mais donc, en gros, vous, au niveau des clients que vous avez, ça se répartit comment entre les, on va dire, les industriels qui ont des contraintes parce que leur donneur d'ordre leur a imposé, et puis éventuellement des contraintes réglementaires. Je ne sais pas s'il y a des labels qui sont en cours de création ou des choses comme ça. Et puis, tout simplement, les gens qui sont énervés de passer dans le journal, quoi. C'est quoi le marché aujourd'hui ?
À l'heure actuelle, je dirais qu'il y a un bon tiers de personnes qui, pour des raisons commerciales, ne veulent pas faire la une des journaux avec un problème de sécurité trop facile à trouver. Un autre tiers, ce sont des entités plus ou moins en lien avec des États qui ont besoin de comprendre un peu la menace de manière pragmatique. Ensuite, il y a beaucoup d'équipes de R&D qui cherchent à se former en fait pour appréhender la résolution de cette menace qui commence à être à faire partie de leur cahier des charges, parce que les utilisateurs quand même, en tout cas les pas les donneurs d'ordre mais les utilisateurs commencent à leur imposer de faire un peu de sécurité quand même. Et donc du coup, ça apparaît de plus en plus dans le cahier des charges, mais autant ils savent traiter le coût de la fabrication, le temps de la fabrication, mais le coût associé à la sécurisation, ou qu'est-ce qu'il faut faire pour faire de la sécurité dans mon objet connecté au niveau du hard, c'est des gens qui ne sont pas encore habitués à ça, et donc quel algorithme de chiffrement choisir, comment j'implémente mon firmware, c'est quoi les règles de développement sécurisé quand je suis encore en train de faire de l'assembleur, dans mes objets connectés, des choses comme ça. On en est plutôt là.
Ouais, c'est quelque chose que je vois aussi de mon côté. Effectivement, parfois le donneur d'ordre, et c'est bien d'ailleurs, ça, c'est un signe de maturité, c'est l'utilisateur ou le futur utilisateur de la solution. Souvent d'ailleurs, c'est un utilisateur B2B, hein, on n'est pas encore un utilisateur B2C, mais on a des professionnels qui nous sollicitent pour évaluer la solution d'une sécurité qu'ils souhaitent intégrer dans leur solution à eux ou dans leur entreprise, et qui sont prêts à l'acheter que si elle est suffisamment sécurisée. Donc on a effectivement le concepteur de la solution qui peut être le donneur d'ordre, mais on a aussi les futurs utilisateurs de la solution qui commencent à être aussi des donneurs d'ordre. Et c'est plutôt bien en termes de maturité du marché.
Et c'est d'ailleurs dans ce cadre-là qu'on retrouve assez régulièrement les RSSI qui demandent quand même à vérifier que tel ou tel objet plus ou moins industriel ou plus ou moins connecté, qui est connecté de toute façon à leur SI, s'intéresse assez rapidement à la sécurité des objets qui sont en train de relier à leur SI en fait. C'est là où on voit les deux mondes se rejoindre, c'est quand un objet connecté commence à se plugger sur un SI d'entreprise.
Curieusement, les industriels sont plus demandeurs quand il s'agit d'une solution tierce en matière de sécurité que sur leur propre solution qui est développée.
Curieusement, oui.
Tu sais, pas comme si les éditeurs de produits de sécurité faisaient des produits sécurisés. Et au niveau de l'offre, ça en est où ? Parce que autant je suis capable de citer plus de 200 ESN qui te font du pentest, autant en termes d'audit hardware. Il n'y a pas de conférence dédiée à l'audit hardware ?
Alors, il y en avait une avant qui s'appelait Hardware 01, mais je crois qu'elle n'existe plus. Il y en a une autre en ce moment qui est faite par ceux qui font aussi à King's the Box, qui s'appelle Hardware, me semble-t-il.
Hardware.io, c'est ceux qui font Nulcon, hein. et les organisateurs de Nulcon en Inde. Et là, il y a une session, c'était en mois de septembre aux Pays-Bas, d'Hardware.io, qui est entièrement dédiée au hardware.
Et après, depuis 5 ou 6 ans... Facilement, tu as quasiment une track dédiée au hardware hacking dans sa version la plus large possible dans toutes les conférences à l'international, quoi.
Bah, en France, on a les Cesti cartes à puce, hein. D'ailleurs, c'en est un qui a acheté Opal, hein, mais je veux dire qui font de la sécurité matérielle depuis, enfin historiquement. Et donc ces gens-là ont petit à petit sans doute été parmi ceux qui ont développé des compétences. Après, je pense qu'il y a pas mal de boîtes qui sont arrivées à la sécurité matérielle par accident. Enfin, je veux dire, le jour où on te demande d'auditer un lecteur de carte bancaire ou une box ADSL, bah, tu te rends compte que tu as atteint le bout de ce que tu pouvais faire en logiciel. ah mais finalement, bah, comme le mec il a la box devant lui, il va l'ouvrir. Et puis tu commences à comprendre les puces à l'intérieur, des entrées-sorties, les, là où tu peux te brancher. Puis on a tous vu des présentations où les gens récupéraient des clés dans la mémoire d'un appareil qui venait d'être éteint. Donc on a essayé de faire pareil et de reproduire. Donc je pense qu'il y a quand même pas mal de boîtes de sécurité à droite à gauche qui à l'origine étaient plus sur le logiciel informatique classique qui sont passées au matériel. Et puis comme Renault, il y a aussi beaucoup de gens en faisant des réseaux sans fil qui ont commencé aussi à descendre de plus en plus dans le matériel. Dès que tu fais du sans fil, tu descends aussi dans le matériel. Donc finalement, il y en a pas mal qui en ont fait un peu, mais à chaque fois, j'ai le sentiment que personne n'a eu la masse critique de prestations pour maintenir perpétuellement le haut niveau d'expertise dans le sujet. En dehors de Yann, bien sûr, et de Renault, bien sûr.
Oui, donc c'est ça. Au-delà des conférences, en gros, il y a les CESTI, mais qui sont très spécialisés carte à puce, et ensuite, allez, deux, trois intervenants.
Mais je pense que beaucoup de CESTI s'ouvrent à de l'électronique beaucoup plus large, hein. Enfin, je veux pas les citer à leur place, hein, mais je le pense. Hein. Puis sinon, tu retrouves des acteurs internationaux ou tu retrouves des acteurs de la carte à puce qui se mettent à faire de la sécurité matérielle tous azimuts.
C'est pas forcément évident parce que le milieu de la carte à puce, c'est quand même un milieu qui a ses propres contraintes. Enfin, je veux dire.
Oui, mais c'est des sociétés qui se réingénieraient en société de logiciels, en société de services, en prestataires tous azimuts. Et donc, qui pensent qu'ils ont une légitimité sur la sécurité matérielle. Les grands acteurs disent qu'ils font tout et qu'ils font aussi la sécurité matérielle. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, hein, mais en tout cas, je l'ai vu dans les plaquettes commerciales.
Entre nous, je veux dire, les attaques sur carte à puce sont quand même très différentes d'aller trouver un port JTAG ou un port série sur la carte mère d'un automate industriel.
Preuve, les informaticiens font du JTAG et du port série, alors qu'ils n'attaquent pas sur la carte à puce elle-même. Eux, ils attaquent justement le port série du lecteur de carte à puce. Beaucoup plus intéressant et beaucoup plus rigolo. Bon, après, c'est que mon sentiment, c'est que ceux qui viennent du monde de la carte à puce sont aussi passés dans ce type d'attaque, d'audit ou d'investigation.
Alors, est-ce que ce n'est pas le moment de structurer le marché en faisant des labels à la CSPN ou des choses comme ça? Bon, s'il commence à y avoir plein de gens qui se mettent dedans, il faudrait peut-être essayer de les comparer les uns aux autres pour trier, séparer le bon grain de l'ivraie.
Alors, il le faut, hein, un label, il le faut. Il le faut pourquoi? Il le faut ne serait-ce que pour le consommateur, mais aussi pour le professionnel, hein, pour qu'il sache réellement entre plusieurs solutions laquelle est la plus sécurisée en dehors des messages marketing qu'on trouve sur les boîtes qui sont souvent d'ailleurs très mensongers, hein. Combien d'alarmes on a audité où c'est marqué que c'est du bicanal, que la clé fait 256 bits et qu'on s'aperçoit que la clé derrière elle fait 10 bits, qu'il n'y a qu'un canal, qu'il n'y a pas de système anti-brouillage, etc. Donc il y a beaucoup d'arguments marketing qui sont faux, hein, sur les boîtes, et il faut un acteur indépendant ou une méthodologie indépendante effectivement pour évaluer les solutions et pour dire qui dit vrai et qui fait de la qualité. Effectivement, ça paraît un peu crucial. Tant qu'il n'y a pas de sanctions justement pour des gens qui sont soit négligents soit mensongers sur les boîtes. Donc c'est dans cette optique-là que Digital Security et puis le CertUbiQ, hein, qui est le premier CERT européen sur la sécurité des objets connectés, effectivement lance un label qui sera disponible le premier trimestre 2017. Et qui donnera objectivement le niveau de sécurité d'une solution en la regardant un peu sous tous ses angles. Voilà. Affaire à suivre.
Un label qui n'est pas AFNOR, NF ou quoi que ce soit. Enfin,
c'est un label qui se veut non commercial et indépendant, c'est-à-dire que le but c'est d'être parfaitement transparent, d'être auditable, opposable, critiquable, etc., etc. On garde une méthodologie, mais les plans de test seront apparents et seront donnés aux professionnels qui passent les tests pour savoir exactement qu'est-ce qui est audité, qu'est-ce qui est regardé.
Toute initiative privée est bonne à prendre, mais là ça reste une initiative privée.
ça, c'est d'initiative privée, mais le but, c'est d'être supporté par un maximum d'industriels et d'autorités publiques.
Donc c'est une méthodologie ou
C'est un savoir-faire hein, qu'on va combiner avec différents plans de test pour donner différents niveaux d'exigence à ce label. Voilà.
Mais pourquoi on peut pas faire un CSPN pour les objets connectés
beaucoup plus pour l'instant. Bah, le CSPN, c'est trop coûteux pour une start-up. Nous, on a plusieurs start-up qui nous ont approchés et qui nous ont dit non, on peut pas se permettre un CSPN, c'est trop coûteux. Pour une start-up, ça se comprend bien, partir sur 30-40 jours d'audit.
Les mecs ils me disent les critères communs, c'est trop long, c'est trop compliqué, il faut écrire comment on a développé, il faut une spec, il faut etc. Ok, je comprends. Mais le mec qui me sort que l'audit en temps contraint, qui est le nom concret du CSPN, ça dépasse ses moyens, je pense qu'il faut quand même que les auditeurs comprennent que j'affirme haut et fort que non, ça c'est pas sérieux. L'audit en temps contraint qui est le CSPN... Ah mais non, le seul risque, c'est de ne pas le réussir. Mais c'est quand même pas quelque chose de coûteux quand on lance un nouveau produit.
Ben, y a deux problématiques, trois problématiques. Il y a beaucoup de nouveaux acteurs sur le marché des objets connectés qui sont des startups. Yann, je pense qu'il pourra confirmer, peut-être qu'il a des plus gros clients que moi, mais il y a beaucoup de clients qui sont des startups et qui n'ont pas le budget pour un CSPN. Donc qui n'ont pas
moi, j'ai des clients qui sont des startups sur des objets connectés et qui ont les moyens de payer des services auprès des boîtes spécialisées plus qu'un simple CSPN.
Et d'autre part, le CSPN n'a pas de vocation exhaustive sur aucun des aspects de la sécurité de la solution connectée. Et c'est bien le problème.
Bah, il faut développer un profil.
À un moment, il faut apporter des garanties sur est-ce qu'il y a du chiffrement, est-ce qu'il y a de l'authentification, est-ce que le rejeu est possible, est-ce qu'on peut brouiller, est-ce qu'il y a de la disponibilité, etc. à tous les niveaux. Et le CSPN n'apporte pour l'instant pas ce type d'information.
Alors attends, tu vas vérifier aussi bien qu'un CSPN pour moins cher que le CSPN.
Non, le but c'est de
CSPN.
C'est d'apporter un certain nombre de garanties que ne fournit pas le CSPN. Et d'automatiser un maximum les tests à travers un banc de tests industriel de manière à faire du rapide et du concret. C'est essentiellement sur ça qu'on va se baser. Non, il s'agit pas de refaire un CSPN, il s'agit de faire quelque chose de moins coûteux pour les startups, de plus accessible et d'apporter un certain nombre de garanties, ce que pour l'instant le CSPN n'apporte pas. Par ailleurs, le CSPN est réservé à des solutions de sécurité qu'elle soit logicielle ou matérielle, et ne s'adresse pas à l'électronique grand public à l'heure actuelle.
Ça, c'est ce qui manque.
Après, il y a dans le CSPN, il y a aussi, je pense qu'il peut manquer, parce que le CSPN, c'est un contrôle, une évaluation. Donc, j'allais dire, c'est après la bataille. Le gros des demandes, c'est aussi en assistance à conception sécurisée. Mmh. Honnêtement, c'est là où il faudrait qu'on concentre nos forces à l'heure actuelle, les uns et les autres, parce que si nos différentes évaluations d'objets plus ou moins connectés ont des couleurs plutôt rouge écarlate ces dernières années, c'est parce que les principes de conception ne sont pas forcément très sécurisés. Et donc du coup, je pense qu'il faut aussi beaucoup plus travailler sur l'accompagnement à la conception sécurisée d'objets connectés, que ce soit sur les couches hardware, le software dans le hard ou les couches radiofréquences, voire même les couches purement IT, puisque en fait ce ne sont pas les mêmes acteurs, encore une fois.
Et donc, tous le même discours, hein, intégrer la sécurité, la vie privée dès la conception. Bien sûr, on aimerait que les gens ne doivent pas refaire une fois qu'il y a eu un audit, mais c'est le discours que tout le monde a, je pense, en permanence. Security by design, privacy by design. On a fait pas mal d'émissions là-dessus.
Ouais, complètement. Bah, si dans le logiciel, effectivement, quand il y a un problème qui est détecté, il faut réécrire du logiciel, c'est pas trop grave. Mais dans le hardware, quand il faut changer de microcontrôleur parce que le microcontrôleur qu'on a pris n'apporte pas suffisamment de garanties en termes de protection, par exemple du firmware ou des données qui sont stockées dessus, là c'est beaucoup plus coûteux parce qu'il y a de la réingénierie à faire. Et c'est même pas que du changement, enfin c'est pas du patch, c'est pas du changement d'architecture, mais c'est toute la réingénierie qu'il faut faire. Donc c'est encore plus coûteux quand il y a eu des erreurs de conception hardware et quand la sécurité n'a pas été pensée dès le début, bien évidemment. Donc c'est d'autant plus nécessaire de le faire au niveau hardware, cette intégration de la sécurité en début de projet, que dans le logiciel où c'était déjà très prégnant.
Aujourd'hui, c'est quoi les solutions qui sont utilisées pour faire des objets connectés ? Parce que il me semble que sorti du couple Linux OpenSSL, enfin sauf si on parle vraiment de microcontrôleurs, mais alors là effectivement il n'y a probablement pas de système d'exploitation ou autre, mais alors là pour aller faire du TLS sur un microcontrôleur, c'est quasiment de la science-fiction.
Il y a pas mal de choses qui existent, enfin Yann pourra aussi confirmer. Il y a plusieurs systèmes d'exploitation temps réel hein, qui existent. La difficulté c'est que il y a très peu de référentiels de sécurité, mais on a des free RTOS et compagnie qui existent hein, sur les systèmes les OS temps réel. Ensuite on a tout un tas de librairies cryptographiques plus ou moins légères qui peuvent tourner sur des microcontrôleurs 8 bits, 16 bits, 32 bits qui sont modulaires, c'est-à-dire qu'on peut compiler uniquement ce dont on a besoin dans la bibliothèque et le reste est écarté pour éviter d'avoir des empreintes mémoire trop élevées. Il y a des acteurs comme Eclipse à l'heure actuelle qui font énormément de développement de bibliothèques pour l'IoT. Sur iot.eclipse.org, on retrouve plein de composants prêts à l'emploi pour le développeur.
Sous quelle licence ?
Il faudrait regarder.
Je veux dire, c'est commercial ou c'est de l'open source ?
Non, c'est de l'open source. Hein.
L'un n'empêche pas l'autre, je sais, mais je veux dire, c'est du gratuit ou c'est du commercial et tu payes des royalties ? Parce que dans le monde de du hardware de manière générale, il y a beaucoup d'histoires de royalties par rapport au nombre de produits distribués. C'est tout le modèle économique du hardware qui est différent du logiciel aussi.
Non, là eux vendent du service autour, mais les briques logicielles sont entièrement et open source et gratuites et à réutilisation assez libre.
En fait, Nicolas, tu as raison. Dans le monde de l'IoT, la partie hardware des objets connectés, on va dire, souvent tu es face à un Linux qui fait tourner quelque chose, et là, j'allais dire, tu te retrouves dans un environnement que un consultant sécurité IT peut arriver à maîtriser assez facilement. Là où ça commence à devenir compliqué, c'est quand tu es dans un système sans OS, d'accord, où les gens font au mieux du C, sinon de l'assembleur, voire tu te retrouves dans des couches purement électroniques avec des FPGA et des systèmes de type ASIC. Parce que là, pour le coup, si on s'est trompé sur l'ASIC, d'un point de vue sécurité, ça peut coûter cher.
Ah oui, je suis entièrement d'accord. Non, mais ce que je veux dire, c'est que de mon expérience, il y a de plus en plus de gens qui ne font plus de hardware, en fait. Sauf quand ils en ont absolument besoin pour des raisons de performance ou autres. Sinon, en pratique, maintenant, tu veux faire, je sais pas, un interrupteur connecté, tu mets un Linux, un Tomcat, des processeurs ARM à 2 GHz, etc.
Alors, enfin, c'est vrai pour les gens qui rentrent dans le monde des objets connectés, donc ils partent d'une souche vierge, mais tu as tout un existant, un écosystème embarqué qui existe depuis... depuis des dizaines d'années, notamment dans les contrôles d'accès.
C'est pas vrai pour tous ceux qui font attention à la batterie. Hein.
Bah écoute, j'ai découvert récemment que les HoloLens de Microsoft tournaient sur Windows 10 IoT. Quoi. Donc en fait, dans tes lunettes, t'as un Windows 10.
Non, mais il y a quand même une tendance.
Alors ça, c'est un contre-exemple. Hein.
Logiciel, hein, parce que c'est pareil en SDR, on fait de plus en plus de choses maintenant. On va pas forcément passer par des oscillateurs dédiés pour faire des protocoles radiofréquences. Il y a énormément d'opérateurs maintenant qui déploient leurs antennes en SDR, qui vont pas faire de l'électronique sur mesure, ne serait-ce que parce que c'est plus facile à se caler et pour faire des mises à jour. Là, c'est pareil sur les objets connectés, effectivement, je suis assez d'accord avec Nicolas, on a de plus en plus de couches logicielles et on essaie de tourner sur du hardware de moins en moins dédié. Bien que ça soit pas vrai, pas toujours vrai pour des systèmes industriels ou pour du très embarqué. Mais en tout cas pour l'électronique grand public, on tourne de plus en plus sur des couches hardware très générique, hein, sur lequel on va empiler du logiciel.
Parce que, en fait, quelque part, la question, c'est peut-être une question que se posent les auditeurs qui ne sont pas du tout dans le monde électronique et qui sont plutôt des consultants en sécurité, voilà, qui ont ce genre de profil. C'est quoi aujourd'hui les tendances dans le monde de l'électronique ? Parce que finalement, c'est un monde, enfin, un domaine qu'on ne connaît pas du tout. De quoi les gens parlent ? C'est quoi l'évolution de tous ces objets dans les années à venir ? Je pense par exemple, j'avais lu ou entendu quelque part que les réseaux type dédiés à IoT en fait allaient être balayés par la 5G qui avait une branche, enfin une version spéciale objet connecté, et que finalement tout ce qui était un peu spécifique à IoT allait disparaître.
Ça c'est, ça c'est le discours évidemment de ceux qui ont un intérêt à ce discours, méfie-toi. Hein.
Ouais, ouais. Et puis la 5G, personne ne sait encore ce que c'est. Hein. C'est un conglomérat de protocoles dont personne n'a la recette à l'heure actuelle. Donc la 5G, c'est un bien grand mot. Non, peut-être la tendance, c'est à la décentralisation des réseaux, des objets, et à des objets intelligents, c'est-à-dire qui se laissent discuter, qui se passent la parole et qui s'organisent en termes d'architecture de manière intelligente. Sur une partie de la tendance, sur les aspects communication, c'est plutôt sur ces schémas-là que ça s'organise. C'est vrai qu'il y a un foisonnement de protocoles IoT sans fil, et qu'à un moment ou à un autre, il faudra se focaliser sur certains, surtout d'un point de vue sécurité, faire peu d'efforts et faire les efforts aux bons endroits, c'est plus facile que de s'éparpiller. Mais je crois que comme sur tout début de technologie, il y a beaucoup de concurrents, et puis il y a des concurrents qui vont s'effacer parce que leur technologie est pas utilisée ou elle fonctionne pas bien. Et donc il va y avoir une certaine rationalisation des protocoles. C'est comme au début du Blu-ray, HD-DVD, bon, il y en a un qui a pas marché, il s'est effacé, on voit régulièrement ça. Donc sur les protocoles IoT, ça foisonne, mais faut pas oublier qu'il y en a pour différents usages, il y a des courtes, moyennes et longues portées, donc tout ne s'effacera pas pour autant, à chaque usage son protocole. Après, effectivement, la tendance, c'est à des réseaux qui fonctionnent d'eux-mêmes et qui sont de moins en moins opérés et de moins en moins centralisés, généralement.
C'est le retour des mesh networks. Il y a 10 ans déjà, c'était censé être... Il y avait plein de gens qui travaillaient sur les réseaux de capteurs et autres.
Le comeback de Tetra.
Tetra n'est pas sur de la 4G, justement.
Oui, mais Tetra, c'est décentralisé. Ça permet la diffusion, ça permet tout ce dont tu as besoin, les objets connectés. Oui, alors Tetra, ceux qui ne connaissent pas, bon, c'est une vieille techno, c'est ce qui est utilisé par les services de secours, les choses comme ça.
Oui, enfin, Tetra intègre de plus en plus de communications de type purement IT aussi. Donc,
Et même des objets connectés. En conclusion, l'avenir de la sécurité matérielle.
Ben, moi, je pense qu'on est en début de cycle pour les gens qui font de la sécurité. C'est-à-dire, c'est une problématique qui devient grandissante. C'est une problématique où c'est un peu vierge d'outils, de méthodologies, voire même de compétences et de consultants. Comme je dis souvent, c'est comme dans les années 2000 avec l'ouverture des applications Internet. Voilà, c'est un peu à l'heure actuelle la jungle, sans référence ni de conception ni de compétences particulières en sécurité. Et ça ouvre des perspectives à la fois pour le métier de la SSI vers le monde du hardware, et à la fois pour les consultants qui étaient sauveteux et qui veulent aller vers le hardware. Et pour nos clients, c'est une nécessité de prendre en compte cette problématique qui devient grandissante. Voilà.
Eh bien, ça me semble être une excellente conclusion. Des choses à ajouter, Renaud ?
Moi, non, je partage la même opinion, personnellement. Hein. C'est avec, de toute façon, la massification des objets connectés, le fait qu'ils soient de plus en plus autour de nous, va forcément amener une évolution des auditeurs sécurité vers le hardware. Hein. Je pense que c'est une évolution toute naturelle qui va se faire, et que l'auditeur de demain, il aura en plus de connaissances soft à avoir des connaissances réseau et des connaissances hardware avancées pour pouvoir se frayer un chemin dans toutes ces nouvelles technologies qui apparaissent. Hein.
Et puis, si on a beaucoup d'auditeurs intéressés, vous avez entendu au début que Yann Alain avait fait une formation en anglais à Black Hat, mais s'il y a matière, il est prêt à la faire en français en France.
Il y a presque avec le même accent.
Alors, si c'est le cas, Yann, comment est-ce qu'on peut rentrer en contact avec toi ?
Eh bien, il faut me contacter soit via nos emails sur nos sites respectifs, Serma ou Opal Security, qui fonctionne encore pour très peu de temps. Ça va devenir un collector, soit par le tweet, etc. Ou via votre intermédiaire, vu que vous concentrez beaucoup de contacts dans la communauté.
Bon, eh bien, le message est passé. Donc, Yann, un grand merci d'avoir participé à cet épisode.
Merci à vous de m'avoir invité.
Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir.